Marseille, 2013.
De la colline, le long du boulevard, tout autour de la place, près du Paillon, à côté de la gare, mais pas loin du
Nice port. Est comme Marseille candidate au titre de capitale européenne de la culture 2013, un label que souhaitent également obtenir les villes de Strasbourg, Bordeaux, Toulouse, Saint-Étienne et Lyon. À l'occasion du dossier spécial consacré par le journal de la Friche, Label de Mai, à ce sujet, la Grenouille a proposé aux autres villes de nous parler de leur candidature. Thierry Martin est le directeur des affaires culturelles de la ville de Nice.
Bon voyage lagué, je te plante une tour, j'arrache les platanes, les HLM petit.
Ah ben, je pense que c'est une ville qui est très différente à mains égards de l'image que l'on a globalement d'elle, et que c'est là d'ailleurs la raison principale de la candidature. La candidature de Nice Côte d'Azur a pour but de présenter un autre regard. Voilà. Alors vous les Marseillais, vous connaissez aussi les regards parfois un peu sommaires, quelquefois même caricaturaux, que l'on peut porter d'ici ou de là sur telle et telle ville. Et je pense que Marseille et Nice en font partie. Et quand on connaît bien les deux villes, moi je connais bien la vôtre et je connais bien celle-ci et celle de Nice, on sait qu'elles sont évidemment plus riches, plus diversifiées, plus complexes que le regard que l'on porte sur elles. Et Nice aujourd'hui est une ville qui est beaucoup plus créative, beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune, beaucoup plus entreprenante qu'on le dit parfois. Et franchement, cette idée parfois d'une belle endormie, comme ça, sommeillante, entre le luxe et des bâillements autour de la Méditerranée, paraît vraiment une vieille image jaunie. Et donc Nice est une ville en bouleversement. Ça se voit par les modifications urbaines, au travers du tramway, au travers de l'accompagnement artistique du tramway, au travers du très grand projet Spada, qui est un peu l'équivalent de la Belle de Mai à Nice, au travers du nouveau conservatoire, au travers de l'aménagement de tous les quartiers est de la ville, avec notamment de nouvelles universités, à travers de toute une nouvelle politique en faveur du logement. Enfin bref, on est vraiment assez loin, voire très loin, de l'image qu'on en a parfois. Et la candidature telle qu'elle est menée sous la direction artistique de Bernard Fèvre-Darcier, l'ancien patron du Festival d'Avignon, a notamment pour but de présenter des éclairages tout à fait inattendus sur les autres facettes de cette ville et même de ce département.
À part ce changement d'image et de représentation des clichés qu'on peut avoir sur la ville de Nice, que peut apporter le label Capitale Culturelle Européenne à cette ville ?
Le label d'une capitale européenne de la culture apporte au moins trois éléments, je crois, forts. Bon. Le premier, c'est une occasion pour le tissu culturel, artistique, d'être en ébullition, de se revendiquer partie prenante d'un ensemble. Il y a à la fois un phénomène d'appartenance et une envie de se surpasser. Et je crois que c'est le premier but d'une capitale européenne de la culture que de bouger, booster, dynamiser, encourager le tissu culturel et artistique de la ville qui candidate. Le deuxième élément, c'est que on a l'occasion de s'exprimer. On a accès d'une manière un peu différente à des médias, à des relais d'opinion, et l'occasion de leur présenter justement d'autres facettes de la ville, quelles qu'elles soient. Et la troisième chose, c'est que on sait très bien, si l'on gagne, que l'on a un fort apport économique, de touristes, de gens qui peuvent découvrir une région, s'y installer, y travailler, et non seulement des artistes et tout l'emploi culturel, mais également d'autres types d'activités économiques. Donc c'est clair que la bataille, comme on pourrait dire, entre guillemets, est à la hauteur des enjeux.
Quelles sont les principales caractéristiques de la politique culturelle que vous menez actuellement dans votre ville ?
Bien, c'est une ville, Nice, si on parle que de Nice là, et pas de la Côte d'Azur en général, qui a comme première caractéristique, à mon avis, d'avoir quelques secteurs où elle est plus rayonnante que son poids démographique. Je pense que c'est une ville qui, notamment dans les arts plastiques, a marqué vraiment l'histoire de l'art, et notamment de l'art moderne et de l'art contemporain. Et si on ne peut pas faire l'impasse de Klein, de Matisse, de Bonnard, pour prendre quelques grands classiques dans l'histoire de l'art moderne, et j'en oublie bien, et on ne peut pas faire l'impasse de l'apport niçois dans le nouveau réalisme, dans Fluxus, dans ses ports surface, dans l'émergence de l'art contemporain. Et ce mouvement se continue d'ailleurs, hein, la puissance créatrice de la ville d'Arson, le rôle et le poids du musée d'art moderne et d'art contemporain, le MAMAC à Nice, et là aussi je ne cite pas les galeries privées, les collectionneurs, font qu'il y a dans cette ville une capacité, une force dans l'art contemporain qui est au-dessus de sa taille, puisque c'est une ville qui est assez importante à l'échelle française, c'est la cinquième, mais là le secteur dont je parle est très nettement au-dessus de ce poids démographique. C'est vrai également dans la musique. Alors peut-être pas dans toutes les musiques, parce que ça mérite un S, musique, mais c'est vrai que dans la musique classique, dans la musique contemporaine, dans le jazz, tout le monde connaît la place que Nice a jouée dans le jazz, de plus en plus, heureusement, dans la musique actuelle, il y a là aussi un poids très fort. Donc premier regard, c'est celui-là. Deuxième regard, il y a toute une série de domaines dans lesquels cette ville est à sa taille, je dirais. Je pense que dans le théâtre, dans la politique en faveur de la lecture publique, par exemple, dans le cinéma, dans la photo, elle est à la taille d'une grande ville qu'elle est, et qui est non seulement cette cinquième ville dont on parle souvent, mais qui est peut-être plus encore une des villes les plus internationales de France. Je pense qu'elle est dans le trio des villes les plus internationales de ce pays. Ça se voit sur plein de sujets, ses résidents étrangers, son aéroport international, etc. Donc il y a des domaines dans lesquels elle est au-dessus de sa taille, je l'ai dit, puis là, j'évoque quelques thèmes, c'est pas exhaustif d'ailleurs, dans lesquels elle est dans la moyenne tout à fait honorable. Et puis il y a des domaines dans lesquels on est un peu en retard, on le sait, et on y travaille. Je pense que dans les musiques actuelles, on a encore de l'effort à faire, qu'on a un vrai effort à faire dans la danse. On a été une ville de danse importante, et la danse aujourd'hui est plus cannoise ou monégasque que niçoise, donc on travaille à booster cela. Et puis on travaille, je pense que c'est un effort qu'il faut faire aussi, à rentrer plus encore dans ce que j'appellerais l'extrême contemporain, en matière d'art plastique notamment, et on a une réforme importante qui s'applique dès le 1er juillet pour vraiment être à la pointe des mouvements en relation avec Berlin, Barcelone, New York, Londres, les villes où vraiment très dynamiques en matière d'art contemporain, pour non seulement être toujours dans la première catégorie où je disais on est au-dessus de nos forces normales sur les grands mouvements historiques de l'art contemporain, mais rejoindre le peloton de tête dans les mouvements les plus expérimentaux, les plus novateurs. Bon. Donc voilà un peu le regard qu'on peut porter. Une ville qui, à mon avis, est tout à fait bien placée dans la politique culturelle. Je n'ai pas parlé de sa politique de patrimoine, qui est excellente. Une ville qui regarde en toute objectivité les points qui lui manquent et qui travaille pour les corriger, pour les pousser plus haut. Donc voilà, un jugement, je crois, objectif sur ce qu'elle est.
Alors, l'Europe incite les villes candidates à ce label de capitale européenne de la culture à proposer leur candidature avec une thématique forte, un concept. Alors, on sait déjà que celle de Toulouse, ça s'articule autour des chemins. Celle de Lyon, c'est la résidence universelle. Les autres sont en train de chercher. Est-ce que Nice a trouvé la thématique forte qui...
Nous, on a travaillé un projet original au travers de peu de thèmes, d'un nombre mesuré d'événements et d'un budget mesuré qui sera quand même d'environ 50 millions d'euros, mais je sais que les Marseillais annoncent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. On pense que c'est pas forcément utile d'aller dans une sorte de course à l'argent à l'événement. C'est pas du tout une critique pour ce que prévoit Marseille, mais enfin, c'est les Niçois, les Azuréens ont une position un petit peu différente. Alors on propose quatre thèmes, et après on parlera du rassemblement, hein, du thème rassembleur. Mmh. Quatre thèmes dans lesquels on déclinera une dizaine, douzaine de projets. C'est-à-dire qu'en fait, on proposera une année européenne de la culture entre 40 et 45 projets majeurs, plus toute une série d'événements durant le printemps 2013, tournés là vraiment prioritairement sur le tissu local, artistique. Donc le premier thème est le thème de la lumière, qui n'étonnera personne. C'est un thème bien sûr azuréen. La lumière de Nice Côte d'Azur, on la connaît, elle interpelle les arts plastiques, mais les arts visuels en général. Mais elle est l'occasion aussi de parler d'Europe et de montrer que les lumières du Nord, les lumières anglaises, enfin il y a beaucoup de lumières en Europe elles, qui sont vraiment une occasion de dialogue. C'est pas que le bleu pur, qu'on fait, je sais pas, Vermeer ou les spécialistes de l'éclairement capables de mettre en vedette d'autres choses ailleurs. Donc c'est à la fois un thème éminemment local, azuréen, enraciné, et puis en même temps un thème qui se prête à des coopérations européennes. Le deuxième thème, c'est le rivage. Et on travaille sur l'idée de disciplines qui s'empareront du rivage, au travers d'un ensemble de sous-thèmes, l'idée de la frontière, l'idée du dialogue avec l'autre, l'idée d'un espace un peu sacré, celui qui doit rassembler le rivage, qui ne doit pas être la propriété de quelques-uns, qui est l'occasion de dialoguer, de se rassembler, de partager. Le rivage qui est aussi la frontière entre le liquide et le solide, le regard entre la ville et la mer, qui n'est pas le même à Nice que le regard ville-port que l'on a à Marseille, par exemple. Le troisième thème est un thème qui nous intéresse beaucoup, qui est qu'on appelle l'esprit du baroque. Alors, c'est pas le baroque point. La ville de Nice est en effet une ville qui a un patrimoine baroque important, et le patrimoine interpelle l'Union européenne. Mais l'esprit du baroque, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être encore baroque aujourd'hui? Y a-t-il encore aujourd'hui des peintres, des cinéastes, des écrivains, des chorégraphes qui s'inspirent de l'esprit du baroque? Et on trouve ça très intéressant de voir dans les artistes contemporains nationaux, locaux bien sûr et européens, ceux qui revendiquent ce thème, ce qui permettrait de faire une passerelle entre ce que l'on est profondément et puis la contemporanéité. Et le dernier thème est un thème qui associera les sciences, les arts et les technologies, et se demander en 2013, sera-t-on encore bien capable de faire la différence entre ce qui est, on va dire, naturel et ce qui est artificiel, ce qui est virtuel. Et donc comment les artistes, dans ce jeu-là, interviennent. Alors c'est non seulement l'utilisation de l'informatique, mais ça interpelle plus loin encore toutes les technologies, les nanotechnologies, le travail sur le vivant, sur la génétique, et comment dans ce département, qui comporte Sophie Antipolis, une grande université, on peut proposer à nos amis européens un dialogue entre art et technologie, alors qu'il soit ludique, qu'il soit pas prise de tête, comme on dit de nos jours, puisque c'est une candidature qui se veut populaire, qui se veut festive et européenne, mais on peut être festif et intelligent, c'est pas contradictoire, et essayer de voir comment on peut nourrir ce dialogue. Alors, y a-t-il un thème fédérateur? Il y en aura un. Je n'ai pas la phrase, parce qu'on y travaille là, avec un cabinet, et c'est un sujet important qui connote une chose. Ce que je peux dire, c'est il y aura deux éléments qui irrigueront la phrase. Le premier élément, c'est que c'est vraiment une terre d'Europe, la Côte d'Azur. Et vous avez un exemple qui est tout bête. Quand vous êtes à Nice, pour ne parler que d'elle, alors que c'est une candidature Nice-Côte d'Azur, vous arrivez par la promenade des Anglais, vous passez toute une série de rues à nom allemand, la rue Constade, qu'on devrait dire Kronstadt, toute une série de rues italiennes, comme vous pouvez l'imaginer, la rue de Rivoli, la rue de... vous passez la vue sur la deuxième plus grande église orthodoxe au monde, la première étant en Russie. Vous passez le long du jardin Albert Ier au des Belges, vous laissez sur votre gauche l'avenue de Suède, et j'en passe, et des meilleurs. Vous avez ici, et à peu près depuis toujours, depuis les Grecs bien sûr, mais notamment depuis le XIXe siècle, une myriade d'Européens qui sont venus, se sont installés, ont modifié le paysage, se sont mêlés. Ils ne sont pas venus comme un avion se pose sur un aéroport et s'envole. Ils sont venus, ils se sont imprégnés du tissu local, ils ont dialogué avec lui, ils l'ont métamorphosé, pendant qu'eux-mêmes étaient changés par le tissu local. Et donc, cette idée-là se retrouvera dans le thème global de la candidature. C'est vraiment une terre des cultures d'Europe, profondément, éminemment. Et c'est facile à montrer parce que c'est éminemment vrai. Et la deuxième idée, et je l'ai évoqué dès le début du propos, c'est de montrer l'autre facette de cette Côte d'Azur. Voilà. Par-delà, les clichés, la richesse, ils sont vieux, ils sont fachos, ils sont je ne sais quoi, ils ont tous les défauts. Fatalement, il n'y a pas une ville qui ait tous les défauts. Et donc montrer qu'il y a une Côte d'Azur finalement assez différente de ce qu'on dit d'elle. Et donc on va essayer de mélanger à la fois cette idée de terre des cultures d'Europe et de Côte d'Azur vitale, beaucoup plus énergique que l'on pense, et on aura un jour ou l'autre une jolie phrase simple, claire, qui illustrera cela.
Comment pensez-vous associer la population de Nice-Côte d'Azur à cette candidature ?
Ah ben, c'est pas comment on pense, on l'associe déjà beaucoup, par des tas de moyens. D'abord, on a un comité de soutien qui permet à plein de personnes de rejoindre la candidature, de dialoguer, d'écrire, de proposer. Et on a pour ambition de recueillir au moins 25 000 signatures. On en a déjà près de 7 000 aujourd'hui. Ensuite, on l'associe par une série d'ambassadeurs, c'est-à-dire le premier comité de soutien est ouvert vraiment à tout le monde. Le deuxième, c'est plutôt des personnalités des arts, des sciences, de l'enseignement ou de la culture, mais qui sont également des relais d'opinion. On l'associe parce qu'on a pas mal communiqué par toute une série de campagnes, de réunions. Et on va l'associer parce qu'on va lancer des appels à projets sur nos thèmes. On va le faire à partir de la fin mai, où chacun des quatre thèmes que j'ai dit va être explicité. On ne va pas lancer un thème brut de décoffrage, comme ça, bing, la lumière. On va proposer un ensemble de jalons à l'intérieur, de manière à susciter des avant-projets, et de la part du tissu artistique local. Et puis on l'associe parce qu'on s'est beaucoup démultiplié, notamment grâce à nos membres, alors toutes les villes, mais l'université, mais la chambre de commerce, chacun a informé, diffuse des plaquettes à des sites internet, et il y a donc toute une espèce d'échange comme ça qui est en cours, et c'est d'ailleurs un très joli moment à vivre, hein. C'est un moment vraiment d'ébullition et de dialogue.
Quels seront les éléments déterminants, selon vous, pour obtenir ce label ?
Alors, si on se fie au texte européen, et ça paraît quand même bien, l'Union européenne a diffusé un guide. Je vous rappelle qu'il y a deux grands critères dans ce guide, et puis un critère complémentaire. Le premier critère, c'est la dimension européenne des projets. Le deuxième critère, c'est un critère qui demande qu'on soit à la fois artistique mais populaire. Et donc, notre candidature respectera ces deux critères, évidemment. Elle essaiera d'être originale dans ces deux critères, mais elle les respectera. Et puis, il y a un troisième critère qui est énoncé dans le guide. Il n'est pas énoncé comme un des critères, mais on voit bien que c'est important pour l'Union européenne. C'est que le projet de l'année concernée, 2013 pour la France, ne soit pas un projet éphémère, mais au contraire, partie prenante d'un plan de développement à long terme. Et Marseille a fait un plan de développement, je m'en souviens, à l'époque où je travaillais pour l'État à Marseille. Nous avons nous-mêmes un plan de développement à long terme, 2015, et donc là aussi, on va se tenir à ce plan en montrant que les projets sont dans ce plan. Alors, si l'Union européenne et le comité, le jury européen, se tient à ces critères, et on espère bien que ce sera le cas, c'est bien d'avoir des textes de référence, c'est sain, c'est clair. Je pense que ça se fera sur est-ce que chacune des villes respecte bien ces critères, ces préconisations, et deux, ça sera à mon avis ensuite sur l'originalité des projets. Est-ce qu'ils sont, une fois qu'ils ont respecté les critères, créatifs, originaux, inattendus ? Et je pense que l'effet de surprise comptera. Bon. Maintenant, si on sort des critères, écoutez, c'est plus des critères, c'est je sais pas quoi, la pitié, la tête du client, je ne sais pas. Bon. Enfin, je pense que ce sera, je suis même certain, l'application sérieuse de ces critères très bien faits au demeurant. Et voilà, et que une fois que chacun respectera ses critères, ce sera la créativité qui fera différence.
Y a-t-il des exemples de capitales européennes de la culture qui vous ont marqué et qui pourraient vous inspirer pour Nice ?
Oh, il y en a beaucoup d'exemples. Forcément, on regarde tout à côté de nous nos amis génois, qui avaient réussi en 2004 des choses tout à fait intéressantes. Évidemment, Lille, à qui on pense. Mais il y a des candidatures qui ont moins marqué le grand public. Peut-être que, je sais pas, notre presse nationale a été un peu trop hexagonale à ce moment-là. Mais ce qui s'est passé en Irlande, ce qui s'est, par exemple, ou ce qui se passe même à Luxembourg en ce moment, c'est tout à fait intéressant. Moi, je crois que ce qui frappe aujourd'hui, c'est que les villes qui sont désignées capitales européennes ne sont pas forcément, sont même presque plus des capitales nationales, ça c'est clair. De moins en moins souvent, si je juge par les villes qui seront capitales en 2009 et 10, des capitales régionales, c'est quelquefois des villes plus petites, en taille. Je crois que c'est surtout ce qui nous frappe dans les candidatures des uns et des autres, le point d'équilibre intelligent entre le côté artistique et le côté populaire. Et c'est d'ailleurs un sujet très difficile. Si on pousse trop dans la recherche artistique, de la qualité, il y a un danger de faire des choses élitistes et fermées. Et si on pousse trop dans le domaine populaire, il y a un risque de basculer dans le festif en s'éloignant un petit peu, ou pourquoi pas beaucoup, de la dimension culturelle artistique. Et on s'attache ici dans cette candidature à trouver le juste point d'équilibre. Alors vu par nous, on n'a pas une science universelle, mais on s'attache à trouver ce point d'équilibre. Vous savez, c'est un peu la phrase de Vitesse en Avignon, hein, que tout le monde devienne une élite, quoi. Et donc ne pas craindre d'injecter, si je puis dire, vraiment de l'exigence culturelle et artistique dans des projets, en pensant qu'on peut faire des projets de haute tenue artistique et culturelle et rencontrer de très larges publics. Voilà. Et ne pas hésiter à l'envers, à faire interpeller les projets artistiques et culturels par le public, en réaction, pour qu'il applaudisse, pour qu'il conteste, pour qu'il revendique les choses et que ce soit également son projet.
Au pied de la colline, le long du boulevard, tout autour de la place, près du Paillon, à côté de la gare, mais pas loin du port.
C'était Thierry Martin qui nous parlait de la candidature de Nice pour être capitale européenne de la culture en 2013. Prochain rendez-vous autour des candidatures françaises à 15h30. Anne-Marie Castel parlera de la candidature de Saint-Étienne.
Au pied de la colline, je te plante une tour. Le long du boulevard, je te plante une tour. Tout autour de la place, je te plante une tour. Mais pas loin du Paillon, je te plante une tour. Direction l'autre.